Nous avons demandé au Seigneur d'agir puissamment ce matin. Père éternel, merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour toutes tes grâces. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci parce que tu as fait de nous des frères et des sœurs. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous as tant aimés. Merci parce que tu nous aimeras jusqu'au bout, Père éternel. Merci de ta fidélité. Merci pour ce matin. Merci pour ta parole qui est la vérité, qui est une lampe sur notre sentier, Père éternel. Nous nous plaçons comme des adorateurs au pied de ton trône, que tu puisses nous parler au travers de ta parole. Prends le contrôle dès maintenant de tout ce qui se dira. Que tu règnes, Seigneur, dans chaque parole qui sera apportée ce matin. Que je diminue et que tu sois grand en moi, Père éternel. Merci pour ton esprit qui convainc les cœurs. Merci pour tout ce que tu fais ce matin, Père. Que la gloire te revienne. Amen. Il est question donc ce matin des forteresses à prendre. Dans nos vies, nous avons tous effectué des fois le constat qu'il y a des choses qui nous bloquent, n'est-ce pas ? Dans notre marche avec le Seigneur, on se dit à un moment donné, je ne peux pas aller plus loin, c'est trop compliqué, il y a quelque chose qui doit tomber dans ma vie. Et c'est le cas aussi dans notre vie communautaire, dans nos vies d'église. Donc moi, évidemment, je commence à connaître un petit peu l'église d'Angers, mais je connais bien l'église de Limoges, celle que je suis depuis 12 ans. Et lors de toute cette histoire que j'ai avec l'église de Limoges, l'église du Seigneur à Limoges, le cas échéant, il s'est présenté des forteresses devant nous. On a dû faire tomber d'une manière collective. On a dû trouver des stratégies pour que les forteresses tombent. Et effectivement, ça a dû être le cas pour l'église d'Angers. Et ce sera encore le cas demain. Il ne faut pas que nous endormions, puisque le diable nous tient toujours d'une certaine manière dans des choses que nous n'avons pas réglées, à titre individuel et à titre aussi collectif en tant qu'église. Des forteresses qui sont là et qui nous empêchent d'avancer. Mais le désir du Seigneur, c'est que nous puissions toujours continuer à avancer. Il est celui qui marche devant nous, il est celui qui a tout accompli, il nous encourage à marcher dans ses pas, et le cas échéant pour cela, nous devons nous-mêmes aussi faire tomber quelques forteresses. Alors je vous propose la lecture d'un texte qu'on trouve dans Josué au chapitre 6, nous allons le survoler parce que je n'ai pas envie d'être trop long, n'est-ce pas ? J'ai envie qu'on puisse prendre du temps après aussi pour discuter ensemble, donc on va survoler ce texte, vous le lirez tranquillement à la maison, mais Josué chapitre 6, à partir du premier verset, le texte commence de cette manière en disant « La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricadée derrière, par peur des Israélites. Plus personne n'entrait ni ne sortait par ses portes. » Jéricho était cette place forte qui se dressait sur le chemin des Israélites. C'était quelque chose qui les empêchait d'avancer. Et le premier verset dresse un constat qui peut faire peur, c'est-à-dire que tout s'était barricadé, plus personne n'entrait, plus personne ne sortait. Et si j'ose employer un langage de jeune, enfin jeune de mon âge, qui a grandi dans les années 90, je dirais c'est mort. Il n'y a rien qui peut se passer. Il n'y a rien qui peut entrer, il n'y a rien qui peut sortir. C'est une situation désespérée. On ne peut pas aller plus loin. Avez-vous déjà fait ce constat dans vos vies qu'il y a des situations où vous vous dites, je reprends le terme, c'est mort, je n'y arriverai pas. Je ne pourrai pas aller plus loin, c'est bloqué, définitivement bloqué. Il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. On ne pourra rien faire du tout, c'est trop compliqué pour moi. Une chose est sûre, c'est que ça sera toujours compliqué pour toi. Ça sera toujours compliqué pour nos communautés, pour l'église d'Angers. Mais ça ne sera jamais trop compliqué pour ce que le Seigneur a décidé de faire. Il est au-dessus de tout et c'est toujours lui qui a le dernier mot. Il nous faut juste pouvoir considérer ce qu'il veut faire. Alors, voici Josué qui est là avec tout son peuple. Ils ont l'habitude de guerroyer, c'est des guerriers, ils ont déjà conquéri certaines terres, certaines places, ils sont persévérants, et voici que Jéricho est là, et il y a ce constat, ce n'est pas possible. Et j'aimerais juste vous dire que lorsque tu commences à te dire pour ta vie personnelle, ou peut-être même pour l'Église, que ce n'est pas possible, le Seigneur est déjà en train de te faire un petit coucou en te disant, moi j'ai une solution, moi j'ai préparé quelque chose, j'ai juste besoin que tu m'écoutes, que tu me fasses confiance, mais moi j'ai préparé quelque chose pour que cette forteresse tombe, j'y ai déjà pensé depuis toute éternité. Lorsque nous avons des problèmes dans nos vies, lorsque nous avons des difficultés et des places fortes, soyons encouragés en nous disant que le Seigneur est au contrôle et qu'il a déjà préparé la solution. Amen. Dans ce texte-là, c'est le cas. Alors Dieu s'adresse à Josué face au constat qu'ils font et il lui dit... J'ai une solution pour que Jéricho puisse tomber. Et il lui dit, l'Éternel dit à Josué au verset 2, « Regarde, je te livre Jéricho. son roi et tous ses guerriers. Et pendant 6 jours, toi et tous les soldats, vous ferez chaque jour le tour de la ville une fois par jour. 7 prêtres portant chacun un corps fait d'une corne de bélier précéderont le coffre de l'Alliance. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront du corps. Et quand le peuple les entendra produire avec leur corps un son prolongé, tout le monde poussera un grand cri et les remparts de la ville s'écouleront sur place. Alors le peuple donnera l'assaut, chacun droit devant soi. La suite du texte, je vous le résume, c'est que Josué appelle les prêtres, il appelle le peuple et leur raconte ce que le Seigneur leur a dit. On pourrait se poser la question sur comment est-ce que Josué a entendu le Seigneur lui dire ça, ou plutôt de quelle manière il a pris les instructions que lui donnait le Seigneur. Je disais tout à l'heure, Josué, il a l'habitude de faire la guerre, il est entraîné, etc. Et il s'attendait peut-être à une autre solution de la part du Seigneur. Le Seigneur lui dit, tu vas agir de telle manière. Alors il convoque les prêtres, les sacrificateurs, il convoque le peuple et il leur donne les instructions. Il leur dit, voici ce que le Seigneur m'a dit. Est-ce qu'il a fait des commentaires sur ce que lui pensait de la stratégie du Seigneur? On ne sait pas, et je dis toujours, c'est dommage qu'on n'a pas les sous-titres dans la Bible. On n'a pas les impressions intérieures, les commentaires intérieurs des différents personnages, mais je suis sûr que Josué, il était un petit peu fait comme moi, ou comme Bernard, par exemple, et qu'à l'intérieur, il devait se dire, mais c'est n'importe quoi ce plan-là, c'est quoi, c'est une stratégie, là, c'est, non mais t'as pas un truc de mieux? Il a fait confiance au Seigneur, il convoque le peuple, et il prend le temps de leur laisser une consigne en plus au verset 10. Josué avait donné cette consigne au peuple, pas de cri, restez muets, ne dites pas une parole jusqu'au jour où je vous ordonnerai de pousser des cris. Si je devais le résumer et le traduire en Julien Marié, c'est moi, du 21e siècle, Josué leur dit, fermez vos bouches. Je ne veux pas vous entendre jusqu'au moment où le signal sera donné. C'est ce que Josué dit à son peuple, c'est ce que Josué dit aux sacrificateurs, à ceux qui servent le Seigneur. Et le verset 15 nous dit, le 7e jour, ils se levèrent dès l'aurore et ils firent 7 fois le tour de la ville de la même manière que les 6 jours précédents. Et c'est le seul jour où ils firent 7 fois le tour. Et la 7e fois, lorsque les prêtres sonnèrent du corps, Josué ordonna au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous livre la ville. On sonna donc du corps, et dès que le peuple entendit, il poussa un formidable cri, et le rempart s'écroula sur place. Et aussitôt, les Israélites s'élancèrent à l'assaut de la ville, chacun devant soi, et ils s'en emparèrent. Amen. Fin du survol du texte que je voulais que nous puissions regarder. C'est une histoire merveilleuse, n'est-ce pas? C'est une histoire que moi j'ai entendue personnellement lorsque j'étais gamin à l'école du dimanche, qui m'a toujours fasciné, et de voir ces murailles, mais comment est-ce possible? Ces murailles qui s'écroulent face aux cris qui sont faits avec foi de ces gens qui ont choisi de servir Dieu. On revient sur la citadelle, sur la forteresse. Je suis sûr que comme moi, vous aimeriez que dans vos vies, il n'y a pas de difficultés, n'est-ce pas? D'ailleurs, des fois, certains évangiles, que je qualifierais d'évangiles de la prospérité, nous disent que, effectivement, si on sert vraiment le Seigneur, on n'aura jamais de difficultés, on ne sera jamais malade, et puis évidemment, on aura plein d'argent. Mais ce genre d'évangile, le plein d'argent, c'est souvent pour celui qui prêche, hein, d'ailleurs. Hein. Les autres, bon, ils se débrouillent, hein, voilà. Ils ont qu'à être dans la foi, après tout. L'évangile de la prospérité, qui est évidemment une fausse doctrine. Mais nous aimerions, évidemment, le cas échéant, que tout aille bien, que tout soit paisible. Pas de difficultés dans l'éducation de nos enfants, pas de difficultés dans nos relations maritales, dans nos couples. Nous aimerions que tout se passe bien. Et ceux qui sont mariés savent évidemment, sauf certains, que ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Et quelqu'un a dit que le mariage, c'est résoudre à deux les problèmes qu'on n'aurait pas en étant tout seul, n'est-ce pas? On a des problèmes à régler, mais on aimerait que tout se passe bien. Et aussi, dans nos vies d'église, c'est le cas. Le cas échéant, il y a des difficultés, il y a des tensions. Je parlais de la famille, nous sommes tous frères et sœurs. Et des fois, le frère et la sœur, ils me gonflent bien, franchement. Et il y a des tensions qui sont là et on aimerait que tout se passe bien. Et pourtant, on dit souvent, l'Église, c'est l'œuvre du Seigneur. Il ne devrait pas y avoir tout ça dans l'Église. Il ne devrait pas y avoir de querelles dans l'Église. Il ne devrait pas y avoir de jalousie dans l'Église. Il ne devrait pas vraiment avoir toutes ces choses qu'on peut trouver souvent. Vous avez compris que l'Église, c'est l'œuvre du Seigneur, mais que ce sont des hommes et des femmes qui sont dans l'Église. Et tant qu'il y a des hommes et des femmes dans l'Église, Eh bien, l'Église ne sera pas parfaite. Si un jour quelqu'un dit tu trouves une Église parfaite et que tu y arrives, elle cessera de l'être, évidemment. Dans l'Église, nous trouvons toutes ces difficultés et nous aimerions pourtant que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de forteresse à conquérir. Nous aimerions que dans notre ville, tout se passe bien et que tout soit génial. Le problème, c'est que le jour où tout sera génial, où tout sera paisible, où tout se passera bien, nous ne serons plus en alerte. Nous ne dépendrons plus du Seigneur parce que tout ira bien. Nous ne serons plus là en train de batailler et d'essayer de mener des combats. Je crois personnellement que le jour où on cesse d'avoir des combats légitimes, bien entendu, il n'est pas question de querelle et de faire combat à son frère ou à sa sœur, ce n'est pas ça. Mais le jour où nous commençons à dormir et ne plus batailler, nous sommes en danger. Et je crois que le Seigneur aussi le sait, et dans sa pédagogie, c'est pour ça qu'il permet que le cas échéant des forteresses reste en place pour que nous puissions batailler, nous lever, avoir un combat et faire tomber ces forteresses. Et donc, les Hébreux, ce peuple-là, découvrent du coup que d'une certaine manière, Dieu appelle, Dieu donne des promesses, mais que pour entrer dans ces promesses pleinement, il nous faut batailler. Dieu vous a tous parlé, certainement, le cas échéant, vous a révélé peut-être des choses qu'il aimerait que vous puissiez faire. Les jeunes me posaient des questions vendredi, et puis je leur ai raconté un petit peu ma vie. Un petit peu, même si j'ai été long, c'était... Si vraiment je parle de toute ma vie, je suis très très long. Hein. Et donc je leur racontais de quelle manière le Seigneur m'avait parlé, et de quelle manière moi j'ai dû batailler dans ma vie, reprendre des choses que je m'étais fait voler, des choses que j'avais abandonnées à l'ennemi pour pouvoir entrer dans l'appel de Dieu. Et ça sera comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Dieu parle, Dieu donne des promesses, il donne un pays promis et nous aimerions, nous, que ça arrive. Ah, le Seigneur m'a parlé, alléluia, je reçois la promesse de Dieu. Et le Seigneur te dit, oui, bah bouge-toi si tu veux rentrer dans la promesse. Lève-toi, mets-toi debout, prie, intercède, fais-toi violence, fais tomber les forteresses, etc. Et les Hébreux découvrent ça. Dieu a parlé, Dieu leur a promis un pays promis. Et puis même après ça, il y a toujours des places fortes qui sont là. Il faut qu'ils puissent se lever et faire tomber ces forteresses. Bonne nouvelle, peut-être c'est un scoop pour vous, mais la vie chrétienne, c'est ça. Si dans ta vie chrétienne, tout va bien, si tu es tranquille, je me pose des questions sur ta relation avec le Seigneur. Être chrétien, c'est batailler. La parole de Dieu, Jésus nous enseigne que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Pas les violents qui se bagarrent tout le temps avec leurs frères et leurs sœurs, c'est pas ça. Ceux qui se font violence, ceux qui sont debout, ceux qui sont déterminés à entrer dans le plan de Dieu. Et j'aimerais vous dire que si vous cherchez à suivre le Seigneur, à faire sa volonté à titre individuel et en tant qu'Église, il y aura des batailles, c'est normal. C'est juste normal et c'est la vie normale d'un chrétien d'être attaqué, d'avoir des forteresses à conquérir et certainement aussi d'être persécuté parce que ça fait partie du plan de Dieu. Les Hébreux nous montrent ça et nous montrent que Dieu a la solution lors de ces moments-là. Je reviens sur le fait que lorsque la forteresse se dresse devant le peuple hébreu et qu'ils font ce constat que ce n'est pas possible, qu'ils ne pourront pas avancer et comme j'ai dit tout à l'heure, que c'est mort, Dieu a préparé la solution qu'il va communiquer à celui qui cherche sa volonté. En l'occurrence, ici, dans ce texte, c'est Josué qui se tient à la brèche, qui se tient à l'écoute, et face à la difficulté, plutôt que d'essayer de trouver cette stratégie tout seul, basée sur son expérience, il va demander au Seigneur, « Parle-moi, dis-moi quelque chose, montre-moi de quelle manière je dois agir. » Quel est notre réflexe ? Évidemment, je le sais, parce que je suis comme vous, lorsque nous traversons des difficultés. Lorsque nous faisons le constat que les forteresses se dressent devant nous et que nous ne pouvons plus avancer, moi je vais vous dire ce qui se passe dans vos têtes, le premier réflexe, c'est d'essayer de trouver une solution. Je vais faire ci, je vais faire ça. Peut-être même je me mets à dire, je vais spiritualiser la chose en disant, je vais prier plus, je vais lire plus ma Bible. Puis le Seigneur est là et dit, j'ai envie de te dire quelque chose, est-ce que je peux te parler s'il te plaît ? Mais non, j'ai décidé que je vais jeûner 48 heures par jour. Le texte, ce n'est pas possible, et des fois, on prend des décisions. Ouais. Je vais essayer de faire telle et telle chose. Et le Seigneur nous dit, j'ai besoin de te parler. Il faut que je te cause. Il faut qu'on se parle dans les yeux. Moi, j'ai une stratégie. C'est le cas lorsqu'on cherche la face de Dieu. Il nous parle, et on le voit ici, et il parle à Josué. Deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que les plans de Dieu ne sont pas les nôtres. Nous imaginons certaines choses. Moi, j'ai besoin que tu interviennes de telle manière. Des fois, dans nos requêtes au Seigneur, on lui dit « Interviens de telle manière parce que il me semble que ça serait bien. Guéris-moi parce que ça sera ta gloire si tu me guéris, bien entendu. » Nous avons des stratégies tout élaborées et le Seigneur ne peut même plus faire ce qu'il veut. Des fois même, dans nos vies d'église, nous avons des attentes, souvent basées sur notre expérience, basées sur ce qu'on a vécu, et on dit au Seigneur d'agir de la même manière. En 1950, moi j'étais pas né, hein, tu avais agi de telle manière, Seigneur, envoie la pluie de l'arrière-saison, comme à l'époque, agis de la même manière. Et Seigneur dit, je fais ce que je veux déjà. Et ce que je remarque, c'est que tout au travers de la parole de Dieu, le Seigneur nous montre qu'il agit sans cesse d'une manière nouvelle. On le voit lorsque Jésus arrive, par exemple. Il y a l'histoire avec Jean-Baptiste. Jésus arrive, c'est du jamais vu. Il n'y a eu aucun précédent. Un texte que j'aime, qu'on trouve dans Ésaïe 43, verset 18, dit « Ne pensez plus aux choses anciennes. Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Dieu agit toujours d'une manière différente, certainement pour qu'on ne s'habitue pas à appliquer des méthodes qui nous conviennent. Des fois, on cherche Dieu, on a une relation avec Dieu, parce qu'on a vécu de telle manière, on applique toujours les mêmes méthodes. Je ne sais pas s'il y en a qui sont mariés dans la salle, certainement. Un jour, monsieur, tu as offert à ta femme, un bouquet de fleurs, et ça lui a tellement plu que tous les jours, tu lui amènes le même bouquet de fleurs. Au bout du deuxième jour, elle va dire « Ok, t'es sympa, mon chéri. » Troisième jour, elle va dire « T'es gentil, mon chéri. » Quatrième jour, cinquième jour, elle va dire « Écoute, tu peux pas changer un peu le truc, quoi ?» Des fois, nous agissons avec Dieu de la même manière, en appliquant des méthodes, il s'est passé ci, il s'est passé ça, etc. En tout cas, lui, Dieu ne se laisse pas enfermer dans cela. Il propose des choses nouvelles, des choses qui nous dépassent, qu'on n'imagine pas. Pourquoi ? Pour qu'on continue à lui faire confiance, même si on ne comprend pas. Et dans ce texte, je l'ai précisé un peu tout à l'heure, voici Josué, son peuple, des gens qui ont une certaine méthodologie dans leur action, ils ont suivi Dieu d'une certaine manière jusqu'à présent, et là, la solution que Dieu leur propose, humainement parlant, excusez-moi de dire ça, c'est n'importe quoi. Et cette forteresse qui est là, personne ne rentre, personne ne sort, et Dieu dit, j'ai une idée. Pendant 6 jours, vous allez faire le tour de la ville. Le 7e jour, vous faites 7 fois le tour et vous crierez fort et les murailles tomberont. Et Josué dit, ok, pas de problème. Je te fais confiance, Seigneur. Dans nos vies, des fois, il en est de même. Où nous avons des forteresses à faire tomber et Dieu nous parle et il apporte certainement une réponse qu'on n'attend pas. Quelque chose qui paraît, excusez-moi, un peu tiré par les cheveux. Quelque chose qui ne correspond pas à ce que moi j'ai imaginé. Et pourtant, c'est le plan de Dieu. La question qu'on pourrait se poser, est-ce que moi, nous, l'Église d'Angers, est prête encore à se laisser surprendre par Dieu ? Est-ce que l'Église d'Angers est prête à se laisser surprendre et faire confiance à Dieu, même si ça ne correspond pas aux 50 années, dont l'Église n'a pas 50 ans, si ? Aux 50 années qui ont précédé. Est-ce que je suis prêt, moi, à faire confiance à Dieu, peut-être à entrer dans une nouvelle méthode au niveau de la forme, parce que le fond reste toujours le même, c'est que l'Église glorifie le Seigneur. Mais est-ce que je suis prêt à faire confiance à Dieu ? En tout cas, Josué le fait. Et il rentre dans cette dynamique-là. Qu'est-ce qu'il en pense ? Je vous disais tout à l'heure, on n'a pas les sous-titres. Qu'est-ce que pense Josué ? Mais surtout, qu'est-ce que pense le peuple ? Qu'est-ce que pensent tous ces gens qui ont l'habitude de guerroyer, qui sont là au taquet et qui certainement... Je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, quand j'étais jeune, j'étais un peu bagarreur, mais je suis sûr que je ne suis pas le seul. Et moi, j'aimais bien. Oh, regarde, des filles, tu cherches la bagarre. Enfin, oui, et le Seigneur a changé ma vie, n'est-ce pas ? Mais c'est ce genre de profil-là qui sont là. Il y a ces citadelles qui est là, cette forteresse à prendre. Et peut-être qu'ils sont prêts à se dire, il y a des difficultés, mais on va y aller. On va prendre nos armes, on va prendre nos habitudes, avec notre expérience, avec notre manière de guerroyer, on va y aller. Peut-être que c'est ça qu'ils ont dans leur tête et Josué les détend en leur disant non, non. Cette fois-ci, on ne va pas faire comme ça. Qu'est-ce que pense Josué et qu'est-ce que pense tout le peuple qui est là et qui l'écoute ? Vous avez certainement assisté ces derniers temps. On vit en France une situation que je trouve dramatique lorsqu'on voit nos politiques en ce moment, tous bords confondus, évidemment. On a l'impression d'un espèce de cirque. On se demande quels sont les intérêts qui sont servis. Enfin non, on ne se pose même plus la question quels intérêts ils servent, évidemment. Mais lorsque, en tout cas, des propositions sont faites... avec conviction, enfin, en tout cas, il y a des propositions qui sont faites, et de voir l'ensemble de nos concitoyens qui ont certainement raison en disant « mais c'est quoi ta proposition là ? Tu me fais bien rire, commence déjà à mettre en place ce que tu lui proposes, etc. Vous voyez ? Il y a ce que les dirigeants décident, reçoivent, et puis il y a ce que le peuple entend et décide de suivre. Et Dieu a décidé d'agir de la même manière. Il met en place des responsables qui ont un rôle différent. Et puis après, chacun dans l'Église, je parlais de famille, pour moi est précieux. Chacun a reçu quelque chose, chacun a reçu un rôle, une manière d'agir, et Dieu veut utiliser chacun. Mais y compris dans nos églises, des fois, lorsque... Alors je sais qu'ici, l'Église est parfaite, évidemment, hein, sinon je ne choisirais pas de proposer, hein, sinon évidemment. Mais quelle est notre réaction, nous, en tant que frères et sœurs, en tant que personnes qui ne sont pas peut-être en responsabilité, lorsque les responsables, le conseil d'anciens dit « Voilà, il nous semble que le Seigneur nous a parlé, on va aller dans telle direction, peut-être pour faire tomber telle forteresse. » Quelles sont nos réactions ? Est-ce que nous sommes de ceux qui choisissons de faire confiance dans l'autorité que Dieu a mis en place ? Ou est-ce qu'au final, on n'en pense pas moins et puis on décidera de faire ce qu'on veut ? En tout cas, dans le texte, il nous dit que le peuple a suivi. Les prêtres ont suivi. Et ils sont entrés dans la stratégie qui, humainement parlant, pouvait paraître bancale. Pendant 6 jours, une fois le tour de la ville. Et le 7e jour, 7 fois le tour de la ville, jusqu'au son du cor, où là, ils se sont mis à crier. On pourrait réfléchir sur le fait de... Pourquoi tout ce cirque, si je peux dire comme ça ? Qu'est-ce qui se passe pendant ces 6 jours où ils font le tour de la ville ? On essaie de contextualiser, on voit ce peuple qui est là, qui a l'habitude de guerroyer. On ne sait pas ce qu'ils pensent, mais on imagine. Peut-être qu'ils y vont, ils commencent à faire le tour de la ville, ils font le premier pas, et là ils sont en train de se dire, mais c'est n'importe quoi. Ils continuent le 2e pas, et ils se disent, mais pourquoi est-ce qu'on fait confiance à Josué après tout ? Dieu peut très bien me parler à moi aussi. Est-ce que moi je ne ferais pas autrement, vous voyez ? De là, c'est ce qui se passe à l'intérieur de leur cœur, à eux. Et puis, il y a tous ces soldats qui sont sur la muraille. Vous avez compris qu'ils sont observés aussi. Il y a cette forteresse qui est là, qui paraît imprenable. Les soldats qui sont certainement en train de les regarder. Et puis, quand ils commencent à faire un pas, les soldats se disent, mais c'est quoi ces guignols ? C'est quoi cette stratégie à 2 balles ? Et puis, une fois qu'ils ont constaté ça, ils sont en train de se moquer d'eux. C'est-à-dire, c'est comme ça que tu fais la guerre ? C'est comme ça que tu penses que la forteresse va tomber ? C'est comme ça que tu penses que tu vas arriver à quelque chose ? Et Josué a dit au peuple, il a dit, fermez vos bouches, vous vous souvenez ? Et ils sont en train de juste mourir à eux-mêmes, à leur prétention, à leur orgueil certainement, à tout ce qui les qualifie et tout ce qui est de qualité aussi chez eux. Ils sont en train de renoncer à eux-mêmes. Les premiers pas, et puis le premier jour, le premier tour. C'est difficile d'être humilié. Vous avez déjà vécu ça ? Une fois, c'est difficile. 2 fois, c'est difficile. Et pendant 6 jours, et puis j'imagine que chaque jour, le cran de moquerie, le cran de mort qui s'installe dans le cœur, dans le renoncement des uns et des autres, il gradue de plus en plus. Et c'est pas fini, le 7e jour, ils vont le faire 7 fois. Il est question de 7, et vous savez que les nombres dans la Bible ont aussi une signification, une importance. Et le chiffre 7, c'est le symbole du temps accompli de Dieu, du temps parfait de Dieu. Et de la même manière, dans les forteresses que nous avons à conquérir, à faire tomber, il y a un temps pour les faire tomber. Il y a un temps que Dieu souhaite pour que nous puissions entrer pleinement dans la victoire. C'est le cas pour nous en tant qu'individus et c'est le cas pour nous en tant que communauté aussi. Il y a des fois dans la vie des communautés des difficultés, des forteresses qui sont là et on se dit mais jusqu'à quand ça va durer comme ça ? Jusqu'à ce que Dieu décide que la forteresse tombe. Et question de 7 fois, le temps accompli, le temps nécessaire pour que peut-être j'abandonne mes prétentions. 7 tours pour que je renonce à moi-même. 7 fois le tour pour que je réalise certainement que si Dieu ne fait pas l'ouvrage, moi je suis incapable de le faire. Pendant tout ce temps, le peuple, les prêtres, réalisent au final que toutes leurs prétentions, tout leur savoir-faire, toute leur expérience n'est rien à côté de la sagesse de Dieu. Et que si dans cette situation, Dieu n'intervient pas lui-même, il n'y a absolument rien qui se passera. Dans nos vies, c'est souvent ce cas-là. Les forteresses sont là, pas pour que nous contemplions la grandeur de la forteresse, mais que pour nous, nous puissions réaliser la grandeur de Dieu et la nécessité que Dieu puisse agir dans nos vies. Il nous confie, le cas échéant, des stratégies bizarres, des choses qu'on n'aurait pas imaginées, pour que nous puissions lui faire confiance et voir que c'est toujours lui qui a le dernier mot. Pendant 6 jours, une fois le tour de la muraille, je décide de marcher, je meurs à moi-même, je choisis d'être hermétique aux critiques des uns des autres, des jugements des uns et des autres, et de faire confiance à Dieu. Le texte nous parle aussi que Dieu donne les instructions en disant « Vous allez faire de telle manière, mais dans le cortège, vous prendrez l'arche, vous prendrez le coffre de Dieu. » Symbole à l'époque de la présence de Dieu. Et ce que Dieu dit, si vous allez faire le tour, mais pas juste vous. Vous allez considérer ma présence et vous allez vous revêtir de ma présence. Je disais tout à l'heure, lorsque nous traversons des difficultés ou des forteresses, où nous disons « Nous avons ça à battre », nous essayons de trouver des solutions par nous-mêmes. Mauvais réflexe. Dans ces moments-là, effectivement, consultons le Seigneur, mais jamais ne nous éloignons de sa présence. Lorsque les forteresses se dressent, ce n'est pas le moment de se croire très fort pour dire « je vais moins prier, je vais moins chercher la face de Dieu ». Dieu donne des consignes en disant « plus que jamais, emportez-moi avec vous, mettez-moi au cœur du cortège, faites le tour avec moi ». Effectivement, souvent, je fais le constat que dans nos églises, à Angers, mais à Limoges. Ouais. Lorsque les choses sont compliquées, lorsque les choses vont mal, effectivement, c'est là où on commence à vraiment prier. Quand tout va bien, bon, ouais, réunion de prière, réunion d'intercession, c'est bon, quoi. J'y vais si j'ai le temps. Mais qu'on a vraiment des choses qui nous tiennent à cœur, des choses qui sont difficiles, c'est là où on se met à prier. Le Seigneur, au travers de cette parole, nous rappelle cela. Lorsqu'il y a des forteresses à prendre, soyons dans la présence de Dieu, cultivons la présence de Dieu. Ne nous éloignons pas, ne faisons pas les choses par nos propres forces ou par habitude, cultivons la présence de Dieu. Un temps pour que les choses s'accomplissent, et il donne ses recommandations aussi en disant « taisez-vous ». Taisez-vous jusqu'au moment où vous entendrez le signal, jusqu'au moment où je vous dirai de pouvoir crier. Et là, je trouve que Josué ne manque pas de sagesse. Je pense que les Hébreux sont un peu français au final. Ils les connaissent. Ils savent qu'ils parlent des fois pour ne rien dire. Moi, je parle mal des Français parce que je suis français, hein, donc j'ai le droit. Hein, ok ? Vous m'en voulez pas ? Combien de fois j'ai pu parler et me, si j'ose l'expression, me flinguer moi-même en me disant « tu n'y arriveras pas, t'es nul, t'es incapable ». Combien de fois j'ai amoindri l'œuvre que Dieu voulait faire dans ma vie en parlant mal? Combien de fois j'ai amoindri l'œuvre de Dieu qui voulait être accomplie dans la vie de la communauté parce que moi, je parlais mal en disant « ce n'est pas possible, on n'y arrivera pas » ou tout un tas d'autres arguments. C'est le cas aussi dans nos vies. Des fois, nous parlons trop vite et nous parlons mal. Nous avons des mots qui sortent de nos bouches qui nous conditionne à rester dans le négatif. Je disais, en France, nous sommes des spécialistes. Notre culture française est imprégnée de cette négativité qui sort de nos bouches. Nous la voyons dans nos politiques et nous la voyons dans toutes les sphères de la société. Nous sommes comme sous une forme de malédiction qui touche les Français, mais au final qui touche toute l'humanité, et on les voit dans ce cas-là. Lorsque Dieu nous parle, nous avons nos impressions. Et je disais, qu'est-ce que pense Josué ? Qu'est-ce que pense le peuple ? Le texte ne nous le dit pas, mais en tout cas, il n'y a rien qui est écrit. Il n'est pas dit que l'un a dit que. Et Josué l'aura bien pris précaution en disant « taisez-vous ». Dans des moments de crise, dans des moments de difficulté, lorsqu'il y a des forteresses à faire tomber, consultons le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur ? Et fermons nos bouches. Ça évitera d'errer peut-être 40 ans dans le désert. Ça évitera de rester plus de temps que nécessaire, que ce que Dieu avait prévu. J'ai souvent constaté ça dans ma vie. C'est que j'ai parlé trop vite, d'une manière ou d'une autre. Et nos communautés sont remplies de choses qui se disent d'une manière irréfléchie, de manière très humaine, et qui conditionnent beaucoup de choses dans l'Église. Si nous ne comprenons pas l'œuvre de Dieu, choisissons de faire confiance et fermons nos bouches. Il n'est pas question d'anéantir l'esprit critique. Je crois que nous devons avoir un esprit critique, un peu comme Béret, où il réfléchissait à ce qui était enseigné, regardait ce que disait la parole de Dieu. Mais si nous faisons le constat que c'est juste, que c'est inspiré du Seigneur, ne proclamons pas nos négativités, ne proclamons pas notre incrédulité, ne proclamons pas nos ras-le-bol et fermons nos bouches. Et ils l'ont fait. Septième jour, ils font sept fois le tour de la ville. Sept jours, sept fois ils font le tour. Pendant six jours, une fois le tour, vous connaissez le texte. Le temps nécessaire pour mourir à soi-même, le temps nécessaire, je dirais, pour faire jaillir la vie. Je ne sais pas si vous êtes déjà mis dans la peau de ces gens qui ont fait le tour de la ville. Et puis, voilà, le septième jour, on fait sept fois le tour de la ville. Et puis, lorsqu'on entendra le symbole, le signe, on va se mettre à crier très fort. On essaie de le faire ce matin ? On va tous crier très fort ensemble. Vous savez ce qui se passe dans notre contexte français ? Souvent, on attend qu'il y ait le plus fou d'entre nous qui commence à crier. Il y a le signe, le corps qui est là. Et là, tout le monde se regarde. Et puis, il y en a un qui, Bernard, par exemple, qui commence à faire « Youhou !» Et là, les autres suivent. Et puis, est-ce qu'on imagine que c'est un vrai cri rempli de conviction ? Qu'est-ce qu'ils se sont dit à ce moment-là ? S'ils avaient crié le premier jour, ils n'étaient pas prêts. Ils auraient entendu le son du corps et ils auraient fait un peu comme des fois l'église dans la louange. On va louer le Seigneur ce matin ? Je te loue, Seigneur. Merci. Le Seigneur dit, qu'est-ce que tu dis ? Le temps était nécessaire pour démonter en eux tout ce qui était d'incrédulité, pour les mettre au diapason avec ce que Dieu voulait faire. Une fois le temps accompli, le cor a sonné et ils étaient prêts. Et ils ont crié. Ce n'est pas le cri qui a fait effondrer la muraille. C'est Dieu qui a entendu leur cœur et leur foi qui s'exprimaient. Et c'est lui-même qui a fait tomber la muraille. Il y a un temps nécessaire pour nous façonner selon la volonté de Dieu. Un temps nécessaire pour que la vie puisse jaillir de moi naturellement, sans forcer. Et c'est ce qu'ils ont vécu. Ils ont crié, ils se sont emparés de la ville. La forteresse a été abattue. Je crois qu'il y a quelques clés que le Seigneur nous donne au travers de ce texte sur lesquelles nous pouvons être attentifs, sur le fait de se taire, sur le fait de laisser le brisement nécessaire dans nos vies s'installer pour que je puisse être au diapason avec Dieu. Il est arrivé des fois dans ma vie, je suis sûr que c'est le cas aussi pour Bernard, on vit des fois des choses qui sont injustes ou des choses où on a envie de se faire justice soi-même. Il n'y a qu'à moi que ça arrive ? Et pourtant, le Seigneur dit, ferme ta bouche, dis rien, je m'en occupe, continue à faire ce que je te demande. Le Seigneur le fait pour chacun de nous. Tais-toi, continue à faire ce que je te demande. Ne te fais pas justice toi-même. On se moque, accepte les moqueries. On te taille, on te nargue. Laisse faire, moi je m'occupe de ça. Moi je m'occupe de cette forteresse. Décide de mourir à toi-même. Suis-moi, comme moi j'ai renoncé à moi-même. Notre modèle par excellence, Jésus, celui qui a quitté son ciel de gloire, tout ce qui l'entourait, toutes les merveilles. Il est venu, pris la position d'un homme, maltraité injustement. Il a fait le même chemin de croix, comme on dit, que ce qu'ils ont fait ici, c'est certainement une préfiguration. Il ne s'est pas défendu, il n'a pas dit mot, il a accepté. Alors Dieu l'a élevé. Nous avons des défis, des forteresses dans nos vies personnelles et aussi communautaires. Peut-être que je sais que l'église du Colombier, comme on dit, a une bonne image dans la ville, elle est bien perçue. Peut-être que ça n'a pas toujours été le cas ou peut-être que certains imaginent que ce n'est pas grave. Nous faisons ce que le Seigneur nous a demandé. Continuez d'être attentifs à ce que le Seigneur nous a demandé. Moquez-vous, taillez-nous, mettez-nous à l'épreuve, venez nous taquiner. Nous resterons fidèles à ce que le Seigneur nous a proposé de faire. Nous resterons fidèles à la conduite du Seigneur, même si ça paraît bizarre. Amen. Père éternel, merci pour ta parole. Merci pour ces quelques clés que tu nous donnes ce matin au travers elle. Merci pour l'exemple que tu es pour nous, Jésus. Merci parce que tu as renoncé à toi. Et tu as été jusqu'au bout parce que tu nous voyais, parce que tu nous aimais, Père. Quel privilège, quelle grâce, Seigneur. Merci pour cet enseignement. Merci parce que tu es celui qui nous promet que, quelles que soient les forteresses, tu veux qu'elles puissent tomber dans nos vies, dans notre vie personnelle, dans notre vie communautaire et aussi, Père. Merci pour ton esprit qui convainc nos cœurs et qui va nous faire cheminer, Père. Peut-être révèle-nous les stratégies que tu as en réserve pour nous. Ces stratégies peut-être bizarres, humainement parlant bizarres, mais qui sont les meilleures que tu as pour nous. En tant qu'individu, en tant que communauté, Père, nous attendons à toi. Que la gloire te revienne, en tout cas, Seigneur Jésus. Amen.